tous les jours à 10h pendant le confinement. Journal de la peste par Aurélie Ruby.
Nous n'avions maintenant plus d'autre possibilité que la désobéissance civile, et nous nous sommes lancés sérieusement dans la préparation d'actions de masse. Le recrutement et la préparation des volontaires étaient une des tâches essentielles de la campagne, et son succès ou son échec en dépendrait en grande partie. Le 6 avril, des manifestations préliminaires ont eu lieu à Johannesburg, Pretoria, Port-Elisabeth, Durban et le Cap. Alors que le docteur Moroka s'adressait à une foule dans Freedom Square à Johannesburg, je parlais à un groupe de volontaires potentiels au syndicat des travailleurs du vêtement. J'ai expliqué à plusieurs centaines d'Africains, d'Indiens et de Métis qu'être volontaire était une tâche difficile et même dangereuse, car les autorités chercheraient à les intimider, à les emprisonner, et peut-être à les agresser. Quoi que fassent les autorités, les volontaires ne devaient pas répondre, sinon ils ruineraient la valeur de toute l'entreprise. À la violence, ils devaient répondre par la non-violence. Il fallait maintenir la discipline à n'importe quel prix. Le 31 mai, les responsables de l'ANC et du SAIC se sont retrouvés à Port-Elisabeth, et ont annoncé que la campagne de défi commencerait le 26 juin, jour anniversaire de la première journée nationale de protestation. Ils ont également créé un comité national d'action pour diriger la campagne et un conseil national des volontaires pour le recrutement et la formation. J'ai été désigné comme volontaire national en chef de la campagne et président du comité national d'action et du conseil national des volontaires. J'étais responsable de l'organisation de la campagne, de la coordination des sections régionales, du recrutement des volontaires et de la réunion des fonds. Nous avons aussi discuté pour savoir si la campagne devait suivre les principes de non-violence de Gandhi ou ce que le Mahatma appelait Satyagraha, une non-violence qui tente de convaincre par la discussion. Certains défendaient la non-violence sur des bases purement morales, en affirmant qu'elle était moralement supérieure à toute autre méthode, et cette idée était fermement défendue par Manilal Gandhi, le fils du Mahatma et directeur du journal Indian Opinion, qui était un membre éminent du SAIC. Avec son comportement très doux, Gandhi semblait la personnification même de la non-violence. Et il insistait pour que la campagne suive une voie identique à celle de son père en Inde. D'autres disaient que nous devions aborder la question non sous l'angle des principes, mais sous celui de la tactique, et que nous devions utiliser la méthode qu'exigeaient les conditions. Si une méthode particulière nous permettait de vaincre l'ennemi, alors il fallait l'employer. En l'occurrence, l'État était bien plus puissant que nous, et toute tentative de violence de notre part serait impitoyablement écrasée. La non-violence devenait plus une nécessité qu'un choix. Je partageais ce point de vue et je considérais la non-violence du modèle de Gandhi non comme un principe inviolable, mais comme une tactique à utiliser quand la situation l'exigeait. La stratégie n'était pas à ce point importante qu'on dût l'employer, même si elle menait à la défaite, comme le croyait Gandhi. C'est cette conception qui a prévalu, malgré les objections obstinées de Manilal Gandhi. Le Conseil commun d'organisation s'est mis d'accord sur un programme ouvert de non-coopération et de non-violence. Deux étapes ont été proposées pour la campagne de défi. Tout d'abord, un petit nombre de volontaires, bien formés, violeraient les lois choisies dans quelques régions urbaines. Ils entreraient sans autorisation dans des zones interdites, iraient dans des endroits réservés aux blancs, comme des toilettes, des compartiments de train, des salles d'attente et des entrées de bureaux de poste. Ils resteraient délibérément en ville après le couvre-feu, et chaque vague de volontaires aurait un responsable qui préviendrait la police de l'acte de désobéissance, de façon à ce que les arrestations puissent se faire avec un minimum de désordre. La deuxième étape était envisagée comme un défi de masse, accompagné de grèves et d'actions dans l'industrie à travers tout le pays. Avant le lancement de la campagne de défi, un rassemblement a lieu à Durban, le 22 juin, qu'on a appelé la journée des volontaires. Le chef Lou Thuli, président de l'ANC pour le Transvaal, et le docteur Necker, président du Congrès indien pour le Natal, ont pris la parole et se sont engagés dans la campagne. J'étais le principal orateur. 10 000 personnes environ assistaient au meeting et je leur ai dit que la campagne de défi serait la plus importante action de masse jamais entreprise par des opprimés d'Afrique du Sud. Je n'avais encore jamais parlé à une foule aussi importante. Et c'était une expérience extraordinaire. On ne peut pas s'adresser à une grande masse de gens comme à un public de 20 personnes. Pourtant, que mon auditoire ait été une foule immense ou un groupe restreint, je me suis toujours efforcée d'apporter le même soin à mes explications. J'ai dit aux gens qu'ils allaient faire l'histoire et attirer l'attention du monde sur la politique raciste de l'Afrique du Sud. J'ai insisté sur le fait que l'unité des peuples africains, métis et indiens d'Afrique du Sud, était devenue une réalité. Dans tout le pays, ceux qui ont défié la loi le 26 juin l'ont fait avec courage, enthousiasme et le sens de l'histoire. La campagne a commencé au petit matin, à Port-Élisabeth, où 32 personnes, avec à leur tête Raymond Mlaba, sont entrées dans une gare de chemin de fer par l'entrée réservée aux Blancs et ont été arrêtées. Elles ont défilé en chantant des chants de liberté, accompagnées par les acclamations de leurs parents et de leurs amis. Les volontaires et la foule criaient en se répondant « Maï Bouyé Africa !»« Afrique, reviens !» Le matin du 26 juin, j'étais dans les bureaux de l'ANC où je supervisais les manifestations de la journée. Le groupe de volontaires du Transvaal devait entrer en action à midi dans un township africain près de Boksburg, à l'est de Johannesburg. Conduit par le révérend Tantsi, les volontaires devaient être arrêtés pour avoir pénétré dans le township sans autorisation. Le révérend Tantsi était un homme âgé, pasteur de l'église épiscopale méthodiste africaine et vice-président de l'ANC pour le Transvaal. En fin de matinée, j'attendais le révérend Tantsi quand il m'a téléphoné au bureau. Avec les regrets dans la voix, il m'a informé que son médecin lui avait déconseillé de participer à la campagne de défi et d'aller en prison. Je lui ai assuré qu'on lui fournirait des vêtements chauds et qu'il ne passerait qu'une nuit en prison, mais en vain. C'était une grande déception, parce que le révérend Tantsi était un personnage de marque, et nous l'avions choisi pour montrer aux autorités que nous n'étions pas qu'une bande de jeunes agitateurs. Pour le remplacer, nous avons trouvé quelqu'un de tout aussi vénérable, Nana Sitta, le président du Congrès indien pour le Transvaal, qui avait passé un mois en prison à cause de sa résistance passive pendant la campagne de 1946. Malgré son grand âge et une arthrite douloureuse, Sitta, qui se conduisait comme un vrai combattant, a accepté de prendre la tête des volontaires. Dans l'après-midi, alors que nous nous préparions à partir à Boksburg, je me suis rendu compte que le secrétaire adjoint de l'ANC pour le Transvaal n'était nulle part. Il devait accompagner Nana Sitta à Boksburg. Devant ce nouveau contretemps, j'ai dit à Walter « Il faut que tu y ailles ». C'était notre première grande action dans le Transvaal et il était nécessaire d'avoir des personnages de premier plan en tête des volontaires. Sinon, les responsables auraient donné l'impression de rester en arrière pendant que les masses subissaient les châtiments. Walter était l'un des organisateurs et on avait prévu qu'il agirait plus tard, mais il a accepté de bon cœur. Mon principal souci, c'était qu'il portait un costume, vêtements très peu pratiques en prison. Mais nous avons réussi à lui trouver autre chose. Nous sommes partis pour Boksburg, où Youssouf Kachalia et moi avions l'intention de remettre une lettre au juge local pour l'informer que 50 de nos volontaires entreraient sans autorisation dans le township situé dans son district. En arrivant au bureau du juge, nous avons trouvé un bon nombre de journalistes et de photographes. Dès que j'ai tendu la lettre au juge, les photographes sont entrés en action. Le juge s'est soustrait à leur flash et nous a invités, Youssouf et moi, à entrer dans son bureau pour discuter en privé. C'était un homme raisonnable, et il nous a dit que sa porte nous serait toujours ouverte, mais que cette publicité excessive ne ferait qu'empirer les choses. Nous avons quitté son bureau et nous sommes allés directement au township, où la manifestation devait avoir lieu. Près d'un kilomètre avant d'arriver, nous avons entendu des chants victorieux de nos volontaires et de la foule importante venue les soutenir. En arrivant, nous avons trouvé les hautes grilles métalliques du township fermées et nos volontaires qui attendaient patiemment à l'extérieur, exigeant qu'on les laisse rentrer. Il y avait 52 volontaires en tout, des Africains et des Indiens, et une foule de plusieurs centaines de spectateurs enthousiastes et de journalistes. Walter se trouvait en tête des volontaires. Sa présence prouvait que nous prenions les choses au sérieux. Nana Sita incarnait l'esprit des manifestants, et malgré son arthrite, il marchait parmi les volontaires, plein d'ardeur, en leur tapant sur le dos et en leur donnant confiance. Pendant une heure, chacun est resté sur ses positions. La retenue de la police et son comportement nous ont déconcertés. Était-ce une tactique pour décourager les volontaires? Attendait-il que les journalistes s'en aillent pour se lancer dans un massacre à la faveur de la nuit? Ou se trouvait-il confronté au dilemme qu'en nous arrêtant, ce qu'ils auraient fait en temps normal, ils faisaient exactement ce que nous voulions? Mais alors que nous nous posions encore ces questions, la situation a brusquement changé. La police a fait ouvrir les portes. Les volontaires se sont précipités, violant ainsi la loi. Un lieutenant de police a soufflé dans un sifflet. Et quelques secondes plus tard, les policiers ont commencé à encercler les volontaires et à les arrêter. La campagne suivait son cours. Ils ont emmené les manifestants au poste de police, où on les a inculqués. Le même soir, les responsables du comité d'action, qui comprenaient Olivier Tambeau, Youssouf Kachalia et moi-même, nous devions assister à une réunion en ville pour discuter des événements de la journée et préparer la semaine suivante. Cela se passait près du quartier où le second groupe de volontaires, conduit par Flag Bocciello, président de la section centrale de l'ANC, allait se faire arrêter. Peu après 11h du soir, nous les avons rencontrés qui défilaient dans la rue. Le couvre-feu prenait effet à 23h et les Africains avaient besoin d'une autorisation s'ils se trouvaient à l'extérieur. Nous sommes sortis de la réunion à minuit. J'étais épuisée. Je ne pensais plus au défi, mais seulement à un bon repas chaud et à une nuit de sommeil. Mais à ce moment-là, un policier s'est approché de Youssouf et moi. Il était évident que nous étions en train de rentrer chez nous et que nous ne manifestions pas. « Non, Mandela !» a crié le policier. « Tu ne t'échapperas pas. » Il a montré le quart de police avec sa matraque et il a dit « En voiture ». J'ai eu envie de lui expliquer que j'étais responsable de la campagne et qu'il était prévu que je manifeste et que je sois arrêté beaucoup plus tard. Mais bien sûr, ça aurait été un peu ridicule. Quand il a été arrêté, Youssouf a éclaté de rire devant l'ironie de la situation. C'était merveilleux de le voir ainsi, alors que la police l'emmenait. Quelques instants plus tard, Youssouf et moi nous sommes retrouvés avec la bonne cinquantaine de volontaires conduits par Flash Bocciello, qu'on emmenait en camion au commissariat de police de Briques Rouges, qu'on appelait Marshall Square. En tant que responsable du comité d'action, nous étions inquiets que les autres s'étonnent de notre absence, et je me demandais qui prendrait la direction de la campagne. Mais nous avions bon moral. La camaraderie des volontaires en prison a fait que les deux jours ont passé très vite. Déjà, alors que nous allions en prison, les voix des volontaires qui chantaient « Noxi Sikele I Africa »« Dieu bénisse l'Afrique », l'hymne national africain à la beauté obsédante, faisaient vibrer les camions. La première nuit, dans la cour de promenade, l'un de nous a été poussé si violemment par un gardien blanc qu'il est tombé de quelques marches et s'est cassé la cheville. J'ai protesté auprès du gardien qui m'a donné un coup de pied dans le tibia, j'ai exigé que le blessé reçoive des soins et nous avons organisé une brève manifestation. Mais on nous a sèchement répondu que le blessé pouvait demander à voir le médecin le lendemain s'il le désirait. Pendant toute la nuit, nous l'avons entendu souffrir. Jusqu'alors, je n'avais passé que de très brefs moments en prison. Et cela a été ma première expérience véritable. Marshall Square était sale, sombre et défraîchi. Mais nous étions ensemble et si exaltés, si enthousiastes, que j'ai à peine remarqué le décor. Le premier jour de la campagne de défi dans tout le pays, Plus de 250 volontaires ont violé différentes lois injustes et ont été mis en prison. C'était un bon début. Nos troupes étaient en ordre, disciplinées et confiantes. Pendant les 5 mois qui ont suivi, 8500 personnes ont pris part à la campagne. Des médecins, des ouvriers, des avocats, des enseignants, des étudiants, des pasteurs ont défié les lois et sont allés en prison. Ils chantaient « Hé, Malan, ouvre les portes des prisons, nous voulons entrer. » Extrait d'un long chemin vers la liberté de Nelson Mandela.
Journal de la peste par Aurélie Rubis.